Vous êtes avec SBS French.
Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 4 février. L'élection pour les primaires du Parti démocrate aux États-Unis vient de démarrer. Les bureaux de vote du caucus de l'Iowa ont ouvert il y a quelques heures. En Chine, le coronavirus continue de s'étendre. Le dernier bilan fait désormais état de 425 victimes. Et en Australie, le parti des Greens a un nouveau chef, tandis que celui des Nationals a décidé de reconduire Michael McCormack. Et la course à l'élection présidentielle américaine est désormais lancée. Les bureaux de vote ont ouvert il y a quelques heures dans l'État de l'Iowa où se déroule le premier caucus dans le cadre des primaires du Parti démocrate. Et cette année, pour la première fois, on aura à l'issue du scrutin deux résultats, un qui comptabilisera le vote populaire et l'autre le nombre de délégués remportés. Les explications de l'envoyé spécial de RFI à Des Moines, Anne Corpé.
Pour la première fois, il y aura deux résultats, celui du vote populaire qui donne le nombre de voix exprimées aux deux tours et celui qui affichera le nombre de délégués finalement obtenus pour chaque camp. Ce changement de règle a été effectué dans un souci de transparence, mais il risque de brouiller les cartes si les deux résultats ne coïncident pas. Si par exemple Bernie Sanders obtient plus de votes mais moins de délégués que Joe Biden. La participation au caucus est un enjeu majeur. Tous les quatre ans, le ciel de l'Iowa est scruté avec anxiété par les candidats. Cette année, tout va bien. Il fait beaucoup moins froid que d'habitude. Aucune tempête de neige n'est annoncée. On dit habituellement que seuls les trois premiers du caucus de l'Iowa ont une chance d'accéder à l'investiture. Mais si les scores sont serrés entre les quatre principaux candidats, il faudra sans doute attendre les prochaines primaires pour être fixé. Les candidats ont d'ailleurs déjà le regard tourné vers le New Hampshire, où ils reprendront leur campagne dès mardi.
Alors on suivra également bien sûr ce qui se passera dans le New Hampshire, mais on n'en est pas encore là. On va d'abord en fait faire un point sur ces fameux caucus. Il s'agit en fait de réunions entre militants locaux d'un parti qui décident entre eux qui sera leur favori pour la prochaine élection présidentielle. Et le caucus de l'Iowa est le plus important de tous, car tout d'abord, eh bien, c'est dans ce petit état du Midwest que se déroule le tout premier vote, et parce que ce premier vote, il crée en général une bonne dynamique pour celui qui remporte ce caucus. Mais justement, ce procédé est également critiqué. On reproche à ces caucus d'avoir un poids disproportionné sur le reste du processus électoral, mais aussi de manquer de représentativité. Je vous propose donc d'écouter l'éclairage d'Hélène Harter. Elle est la directrice du Centre de recherche nord-américain à l'Université Panthéon-Sorbonne.
Le caucus, c'est un système fermé au sens où il se limite aux électeurs du parti. En fait, c'est la base la plus mobilisée, la plus motivée qui finalement décide du choix du candidat. Et donc on voit bien à la fois le double effet hein, de cette base du parti et en même temps de l'inscription politique qui se fait au niveau local puisque les caucus des partis se réunissent au niveau de chacun des États, de chacun des comtés. Donc c'est un système où la désignation repose en fait sur les gens les plus actifs du parti. Ça peut être des pourcentages parfois qui vont jusqu'à 5 ou 10%.
Mais oui, c'est ça qui est étonnant. En 2004, le caucus démocrate de l'Iowa n'a réuni que 5,7% des inscrits. Donc c'est eux qui ont désigné le candidat des démocrates pour l'État de l'Iowa et il n'était que 5%.
Ça montre bien que selon les États, selon les partis, le degré de mobilisation et d'intérêt est assez inégal. Donc en fait, on est bien dans cette idée que ce sont les militants qui jouent un rôle extrêmement central dans le processus de désignation.
Le Brexit, c'est désormais officiel. Cela signifie, entre autres, pour l'Union européenne et la Grande-Bretagne, qu'elles doivent de nouveau revenir à la table des négociations. Au menu, cette fois, un nouveau traité de libre-échange pour légiférer sur leurs relations commerciales. Pour le négociateur de l'Union européenne, Michel Barnier, la conclusion d'un accord sera d'autant plus aisée si les normes britanniques restent similaires à celles de l'Union européenne. Mais ce n'est pas le chemin chemin que semble vouloir suivre le Premier ministre Boris Johnson, qui a pour sa part estimé qu'il n'était pas nécessaire que les règles britanniques soient calquées sur celles de Bruxelles pour parvenir à la signature d'un traité commercial. On l'écoute.
Il n'est pas nécessaire qu'un accord nous oblige à accepter les règles de l'UE en matière de concurrence, de subventions, de protection sociale, d'environnement ou autre. Et cela, pas plus que l'UE ne doit être obligée d'accepter les règles du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni maintiendra dans ces domaines les normes les plus élevées, des normes par bien des aspects meilleures que celles de l'Union européenne, et sans qu'il soit besoin d'imposer un traité. Et il est vital de le dire clairement et dès maintenant, car on nous dit bien souvent que nous devrions choisir entre un accès au marché de l'UE à condition d'en respecter les règles et les tribunaux sur le modèle norvégien ou un traité de libre-échange qui ouvre les marchés et évite l'arsenal législatif de l'UE sur le modèle du Canada. Eh bien les amis, j'espère que vous avez compris le message à présent. Nous avons fait un choix, nous voulons un traité de libre-échange global sur le modèle canadien. Agreement similar to Canada's.
Au Malawi, l'élection présidentielle qui s'était déroulée en mai 2019 a été annulée. La Cour constitutionnelle qui est à l'origine de cette décision a relevé des irrégularités, je cite, graves, systématiques et de grande ampleur au cours de ce scrutin. La Cour avait été saisie en fait dès la clôture des bureaux de vote par les deux principaux candidats de l'opposition qui contestaient donc l'élection de Peter Mutharika à la présidence. Le Malawi doit organiser de nouvelles élections d'ici 5 mois. On fait le point avec Michel Arsenault de RFI.
Depuis 1994, la constitution du Malawi stipule que le président est élu par une majorité des voix. Jusqu'à maintenant, les tribunaux malawites ont considéré qu'il s'agissait d'une majorité simple. Hier, la Cour constitutionnelle leur a donné tort, car selon les juges, le mot « majority », du moins en anglais, renvoie forcément à une majorité absolue. La décision de la Cour constitutionnelle revient à dire que le président élu, Peter Mutharika, n'a pas été dûment élu, ni lui, ni la plupart de ses prédécesseurs qui n'ont pas obtenu une majorité absolue des voix. La décision de la Cour conforte les deux candidats de l'opposition qui ont porté l'affaire devant les tribunaux, Lazarus Chakwera et Solos Chilima, arrivés deuxième et troisième respectivement. Elle donne raison également aux manifestants qui ne cessent de descendre dans la rue depuis la proclamation des résultats de la présidentielle en mai pour dénoncer la fraude électorale. Le Malawi a 150 jours pour organiser un nouveau scrutin.
Et on reste en Afrique puisqu'à la surprise générale, on assiste peut-être au début d'une normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan. Ce pays, qui est très majoritairement musulman, ne reconnaît pas l'existence de l'État hébreu. Et pourtant, lundi, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a rencontré le général Abdel Fattah al-Bouane, qui dirige actuellement le Soudan. On fait le point sur la situation depuis Jérusalem avec le correspondant de RFI sur place, Guillaume Deltey.
C'est une page d'histoire qui est en train de s'écrire, affirme Benjamin Netanyahou sur son compte Twitter. Sa rencontre ce lundi avec le chef du Conseil souverain soudanais marque un rapprochement entre deux pays ennemis jusque-là. Et selon le bureau de Benjamin Netanyahou, les deux dirigeants se sont mis d'accord pour entamer une coopération qui mènera, dit-il, à la normalisation des liens entre les deux pays. Dans un premier temps, les avions israéliens devraient être autorisés à traverser l'espace aérien soudanais. Cela réduirait considérablement la durée des vols d'Israël vers l'Amérique latine. L'établissement de ces liens pourrait également permettre à Israël d'expulser des ressortissants soudanais auxquels il ne reconnaît pas le statut de réfugié. Mais cette rencontre est surtout forte sur le plan diplomatique, alors que la Ligue arabe vient de rejeter le plan de Donald Trump pour une paix entre Israéliens et Palestiniens. Le Soudan tend la main à Israël. Ce lundi, Benjamin Netanyahou s'est félicité de faire revenir Israël en Afrique, mais sa politique, lancée en 2016, a eu des ratés, jugé ce lundi le quotidien Jérusalem Post. La coopération avec les pays africains ne s'est guère développée et ceux-ci ont continué de voter majoritairement avec les Palestiniens dans les instances internationales. Guillaume Deltey, Jérusalem, RFI.
Les premiers Australiens évacués de la ville chinoise de Wuhan, qui est à l'épicentre de cette épidémie de coronavirus, ont atterri hier à Christmas Island, où ils vont être placés en quarantaine pendant 14 jours. Aujourd'hui, une centaine d'autres Australiens doivent embarquer, eux, vers la Nouvelle-Zélande, à bord d'un vol où se trouvent également des Néo-Zélandais, mais aussi des ressortissants d'États du Pacifique. En Chine, l'épidémie, pour sa part, continue de progresser. On vient d'apprendre que 65 personnes supplémentaires ont été tuées par cette violente infection pulmonaire, ce qui porte le nombre total de victimes à 425 à travers la Chine. L'Organisation mondiale de la santé, qui a déclaré la semaine dernière le coronavirus urgence sanitaire mondiale, estime pour sa part que les autorités sont très mal préparées à l'émergence d'une pandémie mondiale. Son directeur général, Tedros Ghebreyesus, estime qu'au-delà de l'urgence, il faut aussi faire plus pour la prévention.
For too long, the world has operated on a cycle of panic and neglect. We throw money at an outbreak, and when it's over, we forget about it and do nothing to prevent the next one.
C'est aujourd'hui la rentrée parlementaire en Australie et au retour des députés au Parlement, il faut également ajouter l'apparition de nouveaux chefs à la tête de certains partis politiques. C'est par exemple le cas du parti des Greens, dont Adam Bandt est désormais le nouveau président. Son élection a été officialisée ce matin au lendemain de l'annonce par son prédécesseur Richard Di Natal qu'il se retirait de la vie politique. Le réchauffement climatique, la lutte contre le chômage et les inégalités, ce sont les priorités qui ont été données par Adam Bandt, qui souhaite par ailleurs proposer un Green New Deal.
We are a smart and wealthy country. And if we have the guts to take on the big corporations and the weak politicians that they have in their pocket, we can solve these crises. We need a Green New Deal. A Green New Deal is a government-led plan of investment and action to build a clean economy and a caring society.
Et puis à droite, le parti des Nationals a lui aussi voté aujourd'hui pour désigner son président. Michael McCormack a été confirmé au détriment de Barnaby Joyce, qui espérait redevenir le leader de ce parti à l'issue de cette élection. On écoute le vainqueur qui a pris la parole en fin de matinée depuis Canberra.
We will continue as a united team to put the people of regional Australia first and foremost. I want to thank my colleagues for again placing their faith in me. I also want to acknowledge that regional Australians are out there hurting. They are, and we will be there for them. Their interests are our interests, first and foremost.
Et puis un autre ministre de Scott Morrison, David Littleproud, a lui été élu vice-président des Nationals. Il remplace à ce poste Bridget McKenzie, qui a été contrainte à la démission après qu'il ait été révélé qu'elle avait attribué des subventions dans certaines circonscriptions clés quelques semaines seulement avant les dernières élections fédérales. C'est maintenant l'heure de se remettre au travail, d'après David Littleproud.
The shenanigans are over. It's time to get back to looking after those people that are facing drought, that are faced up to these fires. It's time for us to focus on them, not us. The party has to focus on that. We will. We've got a commitment from everybody in that room that we have a responsibility as being elected from regional rural Australia to stand here to be their hope in Canberra.
Et maintenant, un point rapide sur la météo de ce mardi. Malgré des nuages, il fait très chaud à Perth avec 40 degrés, 26 degrés à Adelaide où il y a du soleil, ciel bleu aussi à Melbourne où il fait 21 degrés, à Canberra 25 degrés, 24 degrés à Sydney où le ciel est voilé. Il pleut à Brisbane mais il fait 29 degrés, 33 degrés à Cairns et 32 degrés à Darwin où le ciel est balayé par des averses.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.